marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
Le premier consul des réformes au galop.
Il faut que cessent ces dissidences, la gauche, la droite. Ce pays devient ingouvernable. Ils ne se consolent pas d'avoir tranché la tête de leur roi. Eh bien moi, je leur en fabriquerai un à ma façon.
En 1799, après le coup d'État du 18 Brumaire, commence un moment rare dans l'histoire de France. Le pouvoir repose entre les mains d'un premier consul. Sachant que le temps lui est compté, il travaille d'arrache-pied, il veut faire vite. Une phrase le caractérise qu'il prononce 10 fois par jour face à son épouse, Joséphine. Toujours pas prête ? Il est vrai que le climat est aux réformes. Elles étaient inscrites en filigrane dans l'air du temps. L'opinion avait reproché sa paralysie au régime précédent, le directoire. Elle était prête à se confier à une autorité nouvelle. L'exécutif peut enfin prendre sa revanche en effaçant le rôle des assemblées et en prenant l'initiative. Il n'est donc pas étonnant que soient entreprises des réformes et à un rythme soutenu. Ce qui importe, c'est que ces réformes soient si judicieusement construites qu'elles peuvent durer. L'administration préfectorale, l'organisation de la justice, le code civil, les textes fondateurs du consulat, rédigés à une vitesse record, non seulement répondent à l'attente du moment, mais surtout, elles survivront à l'épreuve du temps. Ce serait une facilité de les attribuer au seul génie d'un souverain qui se serait de suite préparé à devenir un monarque. Bonaparte sait écouter les hommes qu'il a choisis et leur donner toute la valeur qu'ils peuvent avoir. Par leurs origines, leurs expériences diverses, ils témoignent du compromis que le consulat veut établir entre la continuité monarchique et l'époque révolutionnaire. Bonaparte donne de suite à cet orchestre un style qui l'identifie, lui et lui seul, comme le chef indispensable.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Patrice Ganiffet, bonjour.
Bonjour.
Auteur naguère chez Gallimard d'un Bonaparte et il y a peu d'un Napoléon et de Gaulle. Alors combien de conférences par semaine consacrées à Napoléon et de Gaulle ?
Bon, un certain nombre, c'est variable, ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 par semaine.
Je suis heureux de vous proposer aujourd'hui un délassement
voilà.
En vous faisant parler de Bonaparte. Peut-être d'Emmanuel Macron, mais enfin, ce sera dans un instant. Mm-hmm. Pas tout de suite, c'est comme les réformes dans les années 98-99 du 18e siècle. C'est en filigrane. Le directoire laisse une situation financière beaucoup plus grave que, j'allais dire, François Hollande, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Il faut mobiliser des ressources parce que l'ennemi, l'Autrichien, est aux frontières.
Oui, les caisses sont vides. Et effectivement, la politique révolutionnaire de Lassignat a abouti à un désastre. Mais en même temps, le directoire a su trouver une solution à ce problème financier par une banqueroute qui a ruiné les épargnants français et qui a condamné politiquement le directoire, qui s'appelait la banqueroute des 2/3. C'est-à-dire qu'on on a dévalué, en fait. Et donc le directoire a créé les conditions de la reprise consulaire. Et s'il n'y avait pas eu le directoire et sa politique très dure en matière financière, sans doute Bonaparte n'aurait pas pu conduire les réformes aussi vite.
Le plus urgent quand même pour lui, ce sont les réformes de l'administration fiscale, de
les finances publiques,
l'ordre bancaire.
Sûr. Oui, parce que quand il prend le pouvoir avec Sieyès et Ducos, eh bien, il s'installe au palais du Luxembourg, qui est le siège du gouvernement de l'époque, et on ne trouve pas des chaises pour qu'il puisse s'asseoir, une table, et les caisses sont vides. Et d'ailleurs, les caisses sont si vides qu'il décide de partager ce qu'il reste entre avec ses deux collègues, si bien qu'il n'y a rien dans les caisses de l'État. Et la réforme des finances va être conduite très vite.
Il y a 3 consuls. Le premier, le second, Cambacérès, et le troisième qui s'appelle
Lebrun.
Qui n'est pas aussi insignifiant, je vous cite, qu'il ne paraît.
Non, parce que c'était un haut fonctionnaire, on dirait aujourd'hui, de la monarchie, et qui connaissait très bien les questions financières. Donc il va être un peu le chef d'orchestre de la réforme financière. Et d'un autre côté, Cambacérès, qui est un juriste de formation, va être le chef d'orchestre des réformes juridiques du consulat.
Il n'y connaît pas grand-chose en finance, Bonaparte, mais enfin, quand on a conduit une armée, il a fallu, pour la mener à la victoire, que les caisses soient tout pleines. Et après, qu'on a fait gagner les troupes, il faut construire l'administration d'un pays. Ça, il a su le faire en Égypte, en Italie.
L'Italie a été son école, son université à lui. C'est là où il a appris à gouverner, à administrer, la diplomatie, etc. etc. Alors, c'est pas un homme qui est très savant. Il n'a pas fait vraiment d'études, à part l'artillerie. Il connaît pas grand-chose, mais il apprend vite. Et il sait surtout reconnaître les gens qui savent et qui peuvent lui apprendre. Et on sait par exemple qu'il consultait beaucoup Cambacérès au moment des discussions sur le code civil, ce qui fait que lorsqu'il arrivait en séance au Conseil d'État, il pouvait mettre son grain de sel et faire des observations, la plupart du temps pertinentes.
Petit portrait physique, Cambacérès et Lebrun, qui ont connu les régimes précédents, sont poudrés. Une fois que les caisses sont un peu plus pleines, vêtues de rouge, d'écarlate, lui, c'est plutôt cheveux plats, méchamment rangés, mais néanmoins. Alors ça, c'est un portrait en forme de dithyrambe de Leslie Foster.
En premier lieu, il est différent de toute autre personne du monde. Et en second lieu, il est absolument différent de toute peinture, gravure ou buste que l'on a pu faire de lui. Tous ses traits, en particulier sa bouche et son nez, sont fins, anguleux et expressifs, au-delà de toute expression. La véritable expression de son visage est une mélancolie agréable, qui, lorsqu'il parle, se fond dans le plus agréable et le plus gracieux sourire que vous puissiez concevoir. À ceci, on doit ajouter l'apparence d'une pensée profonde et intense, mais par-dessus toute l'expression prédominante, une apparence de calme et de tranquille résolution et d'intrépidité que rien d'humain ne peut altérer. Sa conversation est la plus raffinée que j'ai jamais connue. Et ceux qui ont voyagé disent qu'elle l'emporte non seulement sur celle de tout prince ou potentat vivant de nos jours, mais encore de ceux dont la mémoire nous est parvenue.
Quoi, vous contestez cet extrait de l'heure de culture française?
Non, ça s'applique plutôt au général de l'armée d'Italie. Le consulat, c'est le moment où Bonaparte change physiquement. Parce que Corvisart le soigne, le guérit de la gale dont il souffrait depuis des années et il va commencer à se remplumer, à grossir. D'autre part, le calme, non, c'était un homme très irritable et capable de colère terrible. Alors ce qui est vrai dans le portrait, c'est que effectivement ce qui fascinait chez les gens, c'était la qualité de sa conversation, qui tenait au fait que il n'avait pas de temps pour les choses secondaires, les choses agréables. Bon, c'est un homme qui connaît pas vraiment le plaisir. Même avec les femmes, c'est passé. C'était le début de sa liaison
avec
Joséphine.
C'est pour ça qu'il est mélancolique. C'est parce
que sans doute un peu.
Il n'est pas fait pour le plaisir.
Il n'est pas fait pour la vie de tout le monde, pour la vie ordinaire et ses joies et ses plaisirs.
Ça débauche, c'est le travail.
Sa débauche, c'est le travail, c'est quelques maîtresses en passant, mais sans y mettre beaucoup d'investissement personnel.
Bon, donc sa conversation tirait naturellement vers le haut parce qu'il n'avait pas de temps à perdre.
Non, il n'a pas de temps à perdre. Et il ne s'intéresse qu'aux choses sérieuses. Voilà. Ça, c'est une qualité qu'il avait.
Ouais. Alors autour de lui, vous avez cité Cambacérès, on a cité Lebrun, on ne va pas redire son nom. Gaudin, un homme d'ancien régime,
ça
c'est
sûr,
les finances.
Oui,
les finances. Talleyrand, un homme d'ancien régime.
La diplomatie.
Il y avait des gens honnêtes et jeunes?
Oui,
je ne veux pas dire que Cambacérès n'était pas honnête.
Ceux qu'on a cités, à part Talleyrand, sont tous honnêtes. Gaudin était irréprochable du point de vue de la moralité. Bon, à l'époque, vous savez, c'est pas les mêmes critères qu'aujourd'hui. Donc, il était admis que quelqu'un qui détient une position de pouvoir s'en serve aussi pour faire sa fortune personnelle. C'était un héritage de l'ancien régime qui avait survécu. Mais dans l'ensemble, ce sont des gens qui se rendent compte qu'avec lui, enfin, on va pouvoir faire quelque chose. Et c'est très clair dans les mémoires de Gaudin. Gaudin avait proposé sa réforme des finances sous le directoire, qu'il l'avait accepté. Mais Gaudin dit « j'ai pas accepté le portefeuille des finances parce que les gouvernements étaient si éphémères que ça ne servait à rien ». Mais quand Bonaparte a pris le pouvoir, dit Gaudin, alors j'ai su qu'on allait disposer d'un peu de temps pour faire des choses réellement.
Donc il y en a beaucoup autour de lui qui y croient dur comme fer.
Ils y croient, ils croient qu'on va pouvoir agir, et quand même agir, transformer la réalité, réformer, c'est le grand rêve du XVIIIe siècle, qui n'a été possible ni sous la monarchie, ni en partie sous la Révolution et surtout sous le Directoire. lorsque la guerre civile était terminée, qu'on aurait pu réformer.
Donc là, c'est possible voilà, pendant c'est un cette peu période le, de troisième
voilà,
fois.
C'est un peu l'accomplissement du rêve du XVIIIe siècle, la
Alors,
réforme.
Vous parliez du Code civil, voici Robert Badinter qui témoigne de sa rédaction rapide.
Code civil des Français. Livre 1er. Des personnes. Titre 1er. De la jouissance et de la privation des droits civils. Article 7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. Article 8. Tout Français jouira des droits civils. Décrété le 17 Ventose an 11, promulgué le 27 du même mois.
Regardez le rythme utilisé. C'est 4 mois qu'ils donnent aux 4 commissaires pour faire le code. Et on le fait, parce que la volonté du maître le veut. Regardez ensuite à quel point il va au Conseil d'État participer au débat, ce qui montre un intérêt personnel.
Il s'engage personnellement.
Enfin, il y assiste, il intervient, et à cette époque-là, il a confiance dans les juristes qui sont présents. Il les a nommés d'ailleurs au Conseil d'État, c'est que ce sont de grands professionnels. Il intervient, mais la discussion est libre, et on vote. Et l'autre, plus subtil, plus dissimulé, mais considérable d'influence, c'est Cambacérès. Cambacérès, un juriste tout à fait remarquable, un homme qui sait traduire les exigences de la politique en prescriptions juridiques.
Pas de discussion, cependant, entre Cambacérès, le second consul, et cette dame qui conteste.
Monsieur le ministre, c'est Julie Carreau, l'ancienne femme de Talma, le comédien.
Je suis mère de 3 enfants de pères différents. Vous êtes revenu sur les droits des enfants bâtards.
Madame, le Code civil protège la famille et la propriété. Plus de 400 pages pour les lois sur les biens. Les hommes fondent une famille, la propriété assure leur existence. C'est un droit fondamental acquis par la Révolution. Nous avons voulu que ce droit soit préservé. Il faut vous rendre à cette raison. Le code correspond à nos mœurs.
Un extrait des Voyageurs de l'Histoire de Daniel Van Kustem et Jacques Martin qui savait les inconvénients du multimariage. Ah oui, c'est un système patriarcal,
tout
dit Cambacérès, qui s'y connaît aussi, lui.
Bah, c'est un peu c'est le code de la société française, en effet patriarcale et propriétaire, de la fin de l'Ancien Régime, que la Révolution a consolidé par les ventes de biens nationaux. Donc c'est ce qui a assuré la durée du Code civil, c'est le fait qu'il correspondait à la société de ce temps, qui est restée la société française jusque vers le milieu du XXe siècle, avant qu'elle ne change du tout au tout. Voilà, donc c'était c'est ce qui assure aussi la durée des réformes consulaires, c'est qu'elles correspondent aux réalités du temps. Et Cambacérès le savait bien, parce qu'il avait rédigé une première mouture sous la Convention du Code civil, où se trouvaient déjà les principaux principes, et notamment voilà, le rôle du père de famille, le rôle de la propriété, le rôle de la famille, bref, la distinction des droits civils et des droits politiques, bref, tout ce qu'on retrouvera dans le Code civil.
Mais je reviens sur ce que disait auparavant Robert Badinter, le Conseil d'État est écouté, mais le Conseil d'État, ses membres sont nommés par Bonaparte, et vous dites, c'est un conseil du gouvernement, c'est pour ça que il écoute, c'est pas un conseil de gouvernement.
C'est pas un parlement, c'est pas une assemblée parlementaire. C'est une assemblée technique qui est chargée d'éclairer le gouvernement sur les projets de réforme qui lui sont présentés. Et de ce fait, c'est l'assemblée dans laquelle il a confiance. Il a horreur des délibérations, il a horreur des assemblées qui décident et qui donc pourraient devenir opposantes à son régime. Donc le Parlement est laissé totalement à l'écart et de côté.
Qu'est-ce qu'il en reste d'ailleurs du Parlement? Des assemblées
fantômes? Il reste des assemblées qui votent. Il y a une assemblée qui est l'assemblée principale qui n'a pas le droit de parler. Donc elle vote, mais ses membres ne parlent pas.
Ouais.
Et puis il y en a une autre qui parle, qui est le tribunat, mais qui parle tant qu'il va le supprimer bientôt, qu'il va supprimer cette assemblée. Et il reste son Conseil d'État, dont il a nommé les membres avec Cambacérès et quelques autres qui lui ont servi de conseiller, et qui est un peu un concentré de sa politique, avec des gens qui sont des revenants de l'Ancien Régime, et de l'autre, des gens qui viennent de la Révolution. et c'est un peu le symbole de son ni gauche ni droite, je suis entièrement national, c'est le Conseil d'État qui l'éclaire, avec qui il discute et à qui il autorise la contradiction. Mais le Conseil d'État, en même temps, ne vote pas. Simplement, c'est une assemblée consultative.
Vous nous menez, là, insensiblement, ni gauche ni droite, à une évocation peut-être des rapprochements possibles entre le Premier Consul et Emmanuel Macron. On entend des députés de la majorité dire en privé « Je n'ai jamais vu un tel abaissement du Parlement ». Mais
ça, c'est certain.
D'abord, une pause musicale qui va nous amener d'ailleurs au monde contemporain. Une des chansons qui plaisait beaucoup dans les goguettes de l'époque, c'est l'œuvre de Désaugiers, raconte comment Paris s'éveille à 5 heures du matin.
Déjà l'épicière, déjà la fruitière, déjà les caillères sont abattues. L'ouvrier travaille, l'écrivain rémaille, le fainéant baille et le savant lit. J'entends Jaffotte portant sa haute crier, carottes, panais et gifleurs, perçantes et grêles, son cri se mêle à la voix frêle du noir ramoneur. Le joueur avide, la mine livide et la bourse vide rentre en fulminant. Et sur son passage, l'ivrogne plus sage rêvant son breuvage, ronflant, fredonnant. Gentil, accorde devant ma porte, Perrette apporte son lait encore chaud. Et la portière sous la gouttière prend la volière de Dame Margot.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La meilleure façon d'être cru, c'est de rendre la vérité incroyable. Oui, c'est pas de moi, hein, c'est de Napoléon.
Bonaparte.
Non, Macron. Napoléon, Macron.
Autre chose.
Après Francis Lemarque, c'était Jacques Dutronc, Paris s'éveille, mars 68, il y a exactement 50 ans. Et après Jacques Dutronc jeune, c'était Dutronc dans Les Vieilles Canailles, tout récemment, et qui fait la comparaison entre Bonaparte, vous avez écrit un Bonaparte il y a quelques années chez Gallimard, Patrice Guénifet, et Macron. Emmanuel Macron, il dit souvent, j'ai beaucoup de dettes, je les reconnais volontiers, mais qu'on ne m'enferme pas dans un seul cadre. J'ai une dette envers le comte de Saint-Simon, envers Michel Rocard, envers Paul Ricoeur, et envers le Premier Consul.
Non, je pense pas. S'il y a un rapprochement à faire, c'est un rapprochement de situation et un rapprochement de traits de personnalité. Maintenant, faut pas pousser la comparaison trop loin, mais c'est vrai que la situation ressemble, c'est-à-dire une crise du système politique qui fait que provisoirement, il est délivré du jeu des partis. Ça reviendra, hein, comme c'est revenu avec Bonaparte à la fin de son règne, ça reviendra. Pour l'instant, il en est délivré, donc il faut faire comme Bonaparte, en profiter pour pousser les réformes le plus vite possible.
Délivré de la délibération.
Oui, alors c'est vrai qu'on est dans une période d'avilissement du Parlement, avec les risques que cela comporte en cas de crise, en cas d'échec de l'exécutif, bien sûr. Comme Bonaparte, c'était une période où le parlementarisme, qui avait été la grande valeur de la Révolution française, se trouvait momentanément suspendu. Voilà, c'est un peu ça, c'est le rapprochement de situation. En plus, une situation inextricable, très compliquée, avec de multiples problèmes à résoudre. Et dans ce cas-là, l'abaissement ou l'effacement du Parlement ne sont pas des mauvaises choses, parce que ça permet de conduire plus rapidement les réformes.
Et puis alors, on s'applique à conduire les réformes en travaillant 18 heures par jour. Enfin, le valet de chambre ouvrait les rideaux à 7 heures, et un des premiers plaisirs, oui, pour Bonaparte, bien sûr, on ne parle que de Bonaparte aujourd'hui, un des premiers déplaisirs du Premier Consul, c'était à 7 heures.
Les journaux, général. Je vais vous lire un article du Moniteur, général. Le nouveau régime que nous devons à l'intelligence du premier consul est un système d'ordre et de régénération qui, tout en s'assurant contre le retour des Bourbons, ne ressemble ni à la démagogie violente de la Convention...
Ça va, Bourriette, basta. Je sais ce qu'il y a dans les journaux français. Ils n'écrivent que ce que je veux.
Ah, voilà peut-être autre chose qui saura vous plaire. La réouverture du bal de l'opéra est racontée comme un événement.
Ah, voilà ce qu'il me faut. Pendant qu'il parle de cela, il ne s'occupe pas de politique. Qu'il danse, qu'il chante, qu'il s'amuse. Mais qu'il ne mette pas le nez dans les affaires du gouvernement.
Et aujourd'hui, en guise d'opéra, c'est le salon de l'agriculture, bien sûr.
Alors, Agathe, c'est elle, et Marianne, c'est l'autre.
Exactement.
Vous la voulez pour l'Élysée ou...
Ah, mais...
Ça serait bien.
Sur l'Élysée, je lui retournais Panko.
Hein, Panko?
Allez, je l'adopte.
Alors, il faudra installer un petit poulailler, parce que les poules vont pondre des œufs le matin. Elles pondent des œufs que le matin. C'est pas une question de convention collective, c'est une question de nature. Donc, les poules pondent des œufs parce que le soleil s'éteint avant et que le temps de faire un œuf, c'est le délai qu'il faut. Donc, les œufs sont pondus le matin. Et donc, il faudra aller ramasser les œufs le matin. Il faut leur donner des coquilles d'huîtres l'après-midi parce que pour faire des belles coquilles, il faut que les poules aient des coquilles d'huîtres. Leur donner des bonnes céréales. On lui donnera les premières bonnes céréales qui rentrent chez nous. Il faut simplement s'en occuper avec un peu d'affection. Mais elles vont occuper toute la pousse de l'Élysée.
Monsieur de la Fouchardière, l'heureux propriétaire d'Agathe et de Marianne. Voilà, disent les commentateur politique d'aujourd'hui impuissant, où est tombé le débat? Claire de Rémusat, qui était la première dame d'honneur de Joséphine, la première dame tout court, les Français sont des enfants à qui il faut donner des jouets nouveaux.
Oui, c'est vrai, mais l'art de la communication a toujours fait partie de l'exercice du pouvoir. C'est d'autant plus vrai en démocratie, où le peuple est supposé être le juge de l'action de ses dirigeants, donc il faut bien l'occuper un peu. Donc le salon de l'agriculture, en effet, est l'équivalent des hochets, comme disait Bonaparte, le mot est de lui, qu'on donnait au peuple pour l'occuper. Mais vous savez qu'en réalité, il refusait même qu'on lui montre les journaux français. Il ne se faisait lire que la presse étrangère. Parce qu'en effet, il avait dicté les articles qui paraissaient dans la presse française.
Il était inutile de perdre du temps, voilà, à se relire. La même Madame de Rémusat, avec son époux, est chargée d'organiser des dîners d'intellectuels. Et alors, le premier consul porte la conversation très haut, comme vous le disiez tout à l'heure, au premier dîner. Puis la deuxième fois, il entend les intellectuels, les écrivains, disait-on à l'époque, qui étaient autour de la table, vanter la liberté de penser et d'écrire. Il n'y aura pas de troisième fois.
Non. C'était le genre de sujet qu'il valait mieux ne pas aborder avec lui. S'il lui avait parlé d'astronomie ou de physique, de chimie, il aurait été tout oui et il aurait organisé un troisième et un quatrième dîner. Mais la liberté d'expression, la liberté de penser, c'était vraiment pas son truc. C'est ça, et c'est pour ça que ça n'a pas marché avec les deux grands intellectuels de son temps qui pourtant faisaient leur cours, Chateaubriand et Madame de Staël, mais il les suspectait trop d'accointance avec les idées libérales.
Et si on parlait du style maintenant, parce que la communication passe par un style. Alors aujourd'hui, nous avons la lanterne, résidence privée, réservée aux amis et à la famille, et l'Élysée. Et alors à l'époque, il y avait, dans le rôle de la lanterne, un peu élargi cependant, la lanterne c'est à Versailles, la Malmaison c'est à Rueil, Malmaison. Et là, Joséphine avait créé un climat doux et aimable que de temps en temps, la brusquerie de Bonaparte troublait.
Chère Malmaison, comme j'étais heureuse ici sous le consulat. Je m'en souviens moi aussi. C'était la vie de château, et non celle de palais. Il n'y avait pas de cour, rien que des amis.
8 heures du soir. Quelques intimes autour de Joséphine Bonaparte dans le petit salon de la Malmaison, baptisé par Percier « Salle du Petit Conseil ». Et Percier l'avait décoré avec des trophées, des panoplies rapportées par Bonaparte. C'était une de ces réunions que ne prisait guère le premier consul, près duquel se tenaient Monge, Duroc, le conseiller Didelot, deux noms directeurs des musées, et le tragédien Arnaud.
Dites-moi, citoyen Duroc, que pensez-vous de notre réception ?
Aux Tuileries hier ? Grandiose, citoyen premier consul, grandiose. Tous ces ambassadeurs présentant leurs hommages aux conseillers de la République dans le palais des Tuileries.
Oui, Duroc, ce fut une réception grandiose. Fermez donc cette porte, cette musique m'irrite. Depuis que les Tuileries sont redevenues le siège du gouvernement, on n'y avait pas encore vu une réception si brillante. La République vivant en paix avec toutes les puissances du continent, le nombre des ambassadeurs s'est accru. Les envoyés étrangers se trouvaient au grand complet.
Les nuits du bout du monde de Stéphane Pizzella, les Tuileries, mais vous aviez laissé les consuls au palais du Luxembourg, sans chaise ni lumière.
Voilà, au début, mais le palais du Luxembourg avait été aussi une prison sous la terreur. Et donc Bonaparte se voyait mal habiter dans une ancienne prison, et en plus là où avaient vécu ses prédécesseurs du directoire. Donc il avait plus d'attirance pour les Tuileries, malgré qu'aucun locataire des Tuileries ne s'y est jamais plu. Puis ça avait été le logement de la monarchie, de Louis XVI. Donc très vite, il a migré vers les Tuileries. Mais le week-end, il migrait à la Malmaison, qui était la maison de sa femme, qui en avait fait une propriété superbe d'ailleurs, hein, qui l'avait décorée, aménagée, ajouté une volière, un jardin botanique, etc. Et là, contrairement à ce qui est suggéré dans l'extrait, ça rentrait pas dans un plan de communication comme on dirait aujourd'hui. Il aimait la Malmaison parce que c'était le seul moment où il pouvait dépouiller son personnage historique. Et il faut pas oublier que tous ces gens avaient entre 25 et 35 ans, donc étaient jeunes, et c'était vraiment le lieu où le dimanche se retrouvaient les vainqueurs, les héritiers de la Révolution française. On faisait du théâtre. Il aimait la musique. Hein. Là, il est dit la musique mérite pas
il
du tout.
Il aimait la musique vocale en particulier.
Il aimait la musique vocale et celles qui la chantaient. Il aimait la musique. Il aimait jouer aussi, même si parfois les jeux allaient loin.
Mais Bourrienne, son secrétaire, ancien camarade de classe, je ne l'ai jamais vu aussi heureux qu'à la Malmaison, sauf peut-être sur un champ de bataille.
Oui, bien sûr. La guerre, c'était sa vie. Et même les succès de la politique n'égalaient pas une victoire militaire. Mais néanmoins, quand il était dans une période de paix, il aimait être à la Malmaison. Il jouait même à la balle aux prisonniers, qui était le grand jeu de l'époque. Il y a 15 jours où Molien, le voyant penché, est passé par-dessus lui à saute-mouton. Là, il n'a pas apprécié du tout.
Et à la Malmaison s'impose la première dame que le protocole impose comme telle. Aux Tuileries, la notion de première dame, elle date du consulat.
Oui, c'est une sorte d'adaptation.
C'est pas exactement la
règle. C'est pas vraiment une première dame, mais très vite, elle va avoir effectivement des chambellans, des dames d'honneur, toute une maison qui se constitue autour d'elle. Et c'est comme ça que la cour va réapparaître, le phénomène de cour. Donc pas la Malmaison, mais aux Tuileries, dans les réceptions officielles auxquelles il a été fait allusion dans l'extrait. Là, une cour, alors elle va avoir son jour, comme la reine avait son jour, et les ambassadeurs notamment vont prendre l'habitude, après avoir été reçus par Bonaparte, d'aller saluer sa femme. Comme à Versailles, après avoir vu Louis XVI, on allait saluer Marie-Antoinette.
Oui, mais c'est toute la société aussi qui exprime des demandes à la première dame. Oui. Et elle répond sur son papier gaufré à bordure fleurie. Oui. Je vous cite.
C'est-à-dire, elle rejoue le rôle que jouait la reine, tout à fait. Et elle va, de ce point de vue-là, elle n'a pas de participation directe aux décisions politiques, mais elle a un rôle d'influence certain, et notamment de solliciteuse ou d'intermédiaire auprès de son mari. Et beaucoup de gens de l'ancien régime qui avaient émigré vont pouvoir rentrer grâce à elle, avant qu'une amnistie ne les autorise tous à rentrer.
Et le diamant, comme ça, éblouit tellement qu'on oublie qu'il repose sur sa pointe, parce que la base sociale n'est peut-être pas aussi large qu'on l'imagine.
Non, elle va s'élargir, et d'ailleurs il a une phrase extraordinaire, c'est dans un discours au Conseil d'État, il dit « Nous avons à refaire un ordre social, mais aussi nous avons à refaire un ordre sociable. » Et il dit « Si moi je peux faire le premier, c'est aux femmes qu'il incombe de refaire le deuxième, le second, l'ordre sociable. » Et sa femme va en être chargée, et aussi quelques revenantes mondaines de l'Ancien Régime.
Merci à vous, Patrice Gallifet. Votre Bonaparte chez Gallimard est toujours disponible. On peut suggérer à la Corse d'organiser encore davantage de conférences de vous sur Bonaparte, mais vous y avez parlé récemment de Bonaparte et de Gaulle, de Bonaparte et de l'Italie. votre Napoléon et De Gaulle est toujours disponible chez Perrin. L'émission a été préparée par Franck Olivard avec la réalisation Audrey Ripouille, Stéphane Boja à la technique. Et chez vous, Mathieu Vidard?
Eh bien Jean, on va imaginer dans un instant l'hôpital pris en main par les patients, voilà, patients experts au menu de la tête au carré.
Et que des invités femmes, vous êtes dans le sociable, comme disait Patrice Guénifet.